France Culture.
La Voix Nue, épisode 5, les lumières de l'espoir. Bonjour Dominique Moisy.
Bonjour.
Je vous propose de finir ces entretiens sur ce que vous appelez le devoir d'espérer et quelques leçons de lumière. Leçons de lumière, c'est le titre donné à un livre issu d'un discours de réception du prix Spinoza que vous avez prononcé à La Haye le 22 novembre 2018. Le livre a quant à lui paru aux éditions de l'Observatoire en 2019. Autrement dit, j'aimerais que nous parlions de notre monde et de ce qu'il peut advenir de votre point de vue. On va peut-être commencer par 2024. En 2024, vous avez fait paraître le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir, qui était peut-être une forme d'actualisation de votre géopolitique de l'émotion, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, le Proche-Orient, l'émergence du Sud global, en fait presque une nouvelle grille de lecture à l'intérieur de ce livre, puisque vous proposez un nouvel ordre tripolaire du monde. Parlez-nous donc de cette tripolarité du monde.
Non, je crois que vous avez été à l'essentiel. Le monde avait quand même radicalement changé entre 2008-2009, quand j'avais publié la géopolitique de l'émotion, et aujourd'hui. Et j'étais parti, en réalité, nous en avons parlé lors d'une de nos premières rencontres, de ces deux scénarios que j'avais fait à la fin de la géopolitique de l'émotion, le pire des mondes en 2025, le meilleur des mondes en 2025. Et je voulais, à travers ce livre, Le triomphe des émotions, comprendre pourquoi le pire des mondes s'était imposé, pourquoi le meilleur des mondes s'était éloigné. Et cherchant à expliquer ce triomphe des émotions négatives...
La peur, notamment.
La peur. J'ai été amené à reprendre ma cartographie des émotions du monde et à analyser... l'érosion de l'espoir, le triomphe de la peur et la poursuite de l'humiliation. Et à partir de là, j'ai essayé de bâtir ce que je décris comme un nouvel ordre tripolaire du monde. Donc il y a un sud global. L'expression est très populaire désormais, mais fait l'objet d'un débat entre spécialistes de géopolitique. Vous avez ceux, ils sont très nombreux, surtout dans le monde occidental, qui mettent l'accent sur le fait que, c'est une expression superficielle, attrape tout, qui ne correspond en rien à la réalité, puisque le Sud global regroupe des pays
qui n'ont
totalement
rien à voir.
Différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Ce serait une simplification.
Et ma réponse à cela est que si l'on met l'accent, comme c'est mon cas, sur les émotions, l'expression de Sud global correspond à une réalité. Ce qui unit tous ces pays, qui sont extraordinairement différents, du Brésil à l'Inde, des pays du Moyen-Orient à ceux de l'Afrique, c'est une forme de ressentiment contre l'Occident et contre le passé impérial, colonial de l'Occident. Et au-delà, il y a en réalité une dimension d'espoir qui n'est pas également partagée entre tous les pays du Sud global, mais qui quelque part est présente. Et c'est ce mélange de ressentiment et d'espoir qui me semble constituer un pôle d'autant plus important que ce pôle a potentiellement un leader incontesté et incontestable qui est l'Inde. C'est l'émergence de l'Inde comme une grande puissance sur laquelle je mets l'accent dans mon étude. Alors,
non seulement, il me semble que vous revendiquez le Sud global tel que vous l'avez défini, mais vous enfoncez le clou, si vous me permettez cette expression triviale, parce que vous parlez d'un Orient global et d'un Occident global. Si tant est qu'on puisse parler d'un Sud global, alors on peut aussi parler d'un Orient global et d'un Occident global.
Tout à fait. Alors, l'Orient global, je m'inspire en créant, parce que je ne crois pas avoir vu ce concept ailleurs, je m'inspire d'un philosophe américain d'origine allemande, Karl Fittvogel, qui a écrit un livre important qui s'appelait « Oriental Despotism », le despotisme oriental, montrant le lien qui pouvait exister entre l'URSS au XXe siècle et les modèles de despotisme orientaux précédemment. Et dans l'Orient global, je mets bien évidemment la Chine, je mets la Russie, je mets la Corée du Nord, je mets l'Iran. Des pays qui sont unis par leur volonté de détruire l'Occident. Ils n'ont pas seulement du ressentiment contre l'Occident, ils entendent le détruire et substituer leur modèle à celui de l'Occident. Et dans leur esprit, la démocratie est décadente, obsolète, condamnée à mourir, l'autoritarisme est le modèle du futur. Donc il y a une forme d'esprit de revanche, mais il y a aussi l'idée que il faut détruire l'Occident avant que l'Occident ne nous détruise. Car il y a chez tous les dirigeants de ces pays un sentiment de peur. Une peur que l'on retrouve et qui explique le comportement de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Si les citoyens russes ont à leurs frontières des hommes et des femmes unis par l'amour de la liberté, c'est peut-être dangereux. Les révolutions de couleur ne risquent-elles pas de gagner la Russie? Même chose en Chine. Il faut tuer le poison de la liberté à Hong Kong avant qu'il ne gagne la Chine.
Alors, comme le monde va très très vite ces dernières années, puisqu'en plus, là on parle des grandes puissances ou des puissances émergentes, mais bien entendu, les enjeux internationaux sont aussi dus aux phénomènes en dehors des puissances. Je pense au changement climatique, je pense à la révolution de l'intelligence artificielle, je pense aux pandémies, je pense même à la montée des nationalismes et à d'autres phénomènes encore. Comme le monde va donc très vite, où mettez-vous, Dominique Moïsi, puisque votre livre a paru en 2024 avant la réélection de Donald Trump, si je ne m'abuse, où mettez-vous les États-Unis de Donald Trump aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez encore les mettre dans le même Occident global qu'avant? Est-ce que États-Unis et Europe peuvent être dans le même groupe, disons?
Non, c'est le point central. On parlait de l'artificialité du Sud global, de la difficulté de mettre dans la même catégorie des pays comme l'Iran et la Chine ou la Corée du Nord, mais en fait le pôle qui s'est révélé être le plus fragile et le plus artificiel était le plus ancien, celui que l'on croyait le plus solide, c'est-à-dire le nôtre, l'Occident global. Dans le triomphe des émotions, je mettais l'accent sur le fait que l'Occident n'était pas une expression géographique, qu'il y avait un Occident asiatique, avec des pays comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, qui se revendiquaient du modèle démocratique à l'occidental. Israël était l'Occident moyen-oriental. Et puis soudain, patatras, l'Occident global explose. L'Amérique de Donald Trump déclare la guerre idéologique à l'Union européenne, fait voler en éclats la notion d'Occident. En fait, c'est une de mes dernières chroniques dans Les Échos, je parle de la fin de l'Occident. Donald Trump n'est-il pas en train de tuer sous nos yeux l'Occident en déclarant la guerre au symbole de tout ce qu'il déteste, la rationalité, la modération, l'amour de la liberté, l'Union européenne.
En cette année 2026, Dominique Moisy, vous signez un nouvel ouvrage, parce que comme je le disais, les choses vont très vite. Sans doute avez-vous eu besoin de mettre à jour cette nouvelle cartographie. Est-ce que vous vous dites là, ce livre s'appelle « Le triangle des passions du monde », à paraître au moment où nous enregistrons, chez Robert Laffont. Passion. Donc on n'est plus dans les émotions et dans les passions. Moi, il me semble entendre un signe de radicalisation, mais peut-être que je me trompe.
Non, vous avez tout à fait raison. Le mot « passion » s'est imposé à moi avec l'idée que, vous l'avez dit, on était entré dans un monde encore plus radical, qui tenait encore plus à distance toute notion de rationalité. Et le mot d'émotion ne me paraissait plus suffire pour décrire ce que, pour nommer ce que j'analysais. Il me semblait, c'est ce que j'essaye de démontrer dans ce livre, apparaître dans quelques mois, que la temporalité avait changé. Au fond, l'émotion, c'est intense, ça vous contrôle plus que vous ne la contrôlez, et ça ne dure pas très longtemps. On demandait je reviens à la géopolitique de la musique que nous évoquions dans une autre émission. On demandait au grand chef d'orchestre hollandais Bernard Haitink si la musique, et en particulier celle de Bach, rendait les gens meilleurs. Et sa réponse était oui, mais pas pour longtemps. Donc il y a quelque chose de fugace dans les émotions. Il y a une dimension temporelle plus longue dans la passion et plus dangereuse, surtout s'il s'agit de passions négatives, comme c'est le cas dans le monde d'aujourd'hui. Mais en fait, ce nouveau livre, il s'est imposé à moi à partir d'une triple évolution, celle de l'Amérique, avec l'élection, réélection de Donald Trump, mais Donald Trump 2 a très peu à voir avec Donald Trump 1. Ce qui domine Donald Trump 1, c'est l'imprévisibilité. Ce qui domine Donald Trump 2, c'est la volonté de revanche. C'est que, dans sa première présidence, il est entouré d'adultes dans la salle, « adults in the room ». Dans sa seconde présidence, il est entouré de courtisans plus idéologiques les uns que les autres. Et il est difficile de ne pas utiliser, avec précaution certes, le mot de fascisme pour décrire l'évolution à laquelle nous sommes confrontés aux États-Unis aujourd'hui. S'agit-il d'une parenthèse folle ? S'agit-il d'un mouvement beaucoup plus profond? Nous aurons une première réponse en novembre 2026, lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.
Si vous parlez de revanche, Dominique Moisy, à propos de Donald Trump II, est-ce que cela ne la rapproche pas de Vladimir Poutine?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Je dirais...
C'est le deuxième pôle.
Poutine, Trump... Même combat. On a l'impression que Trump admire Poutine, qu'il serait presque prêt à lui demander des leçons. Comment conserve-t-on le pouvoir? Comment le garde-t-on le plus longtemps possible. Mais il y a, au fond, quelque chose qui les rapproche et qui traverse deux domaines. Il y a ce que j'appelle l'empire du mensonge. L'Amérique de Trump a rejoint la Russie de Poutine dans l'empire du mensonge. La réalité est relative. Il y a un réel inventé qui peut être aussi réel que la réalité elle-même. Et il y a le triomphe de la force sur toute considération de droit. L'Amérique a rejoint le camp des pays révisionnistes. Comme la Russie, comme la Chine, elle ne se soucie pas des frontières, elle ne se soucie pas du droit. La Russie dit « l'Ukraine, c'est à moi », la Chine dit « Taïwan, c'est à moi », Trump dit « le Canada, ça va être à moi », le Groenland aussi, le canal de Panama, il était à moi, il va le redevenir. Voilà, donc en fait, l'Amérique, pendant 80 ans, a été un principe d'ordre. Pas toujours rationnel, pas toujours efficace, parfois dangereux. Elle s'est lancée dans des aventures militaires qui se sont mal terminées. Au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Mais globalement, elle restait un principe d'ordre. Elle était l'assurance-vie ultime de ses alliés. L'Amérique de Trump II est devenue un principe de désordre. Elle est devenue le risque majeur pour ses alliés.
Dominique Moisy, vous disiez qu'il y a trois pôles qui ont prédéterminé l'écriture de ce livre nouveau. L'Amérique, quels sont les deux autres ?
Le Moyen-Orient, depuis le 7 octobre 2023, et ce qui suit, la guerre de Gaza, avec trois conséquences majeures, me semble-t-il. La première, c'est que le Hamas a réussi dans sa volonté de remettre la question palestinienne au cœur des problèmes du Moyen-Orient. Israël a fait la démonstration de sa résilience, de sa supériorité militaire, en affaiblissant l'Iran et les proxys de l'Iran. Mais le coût qu'Israël paye pour cette démonstration de force est considérable. Le pays est isolé diplomatiquement et il y a une explosion d'antisémitisme dans le monde à partir du 7 octobre 2023. Alors, le troisième pôle sur lequel je mets l'accent, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est le test central pour l'Union européenne au moment où l'Amérique n'est plus l'Amérique telle que nous l'avions connue. Est-ce que l'Europe, qui brutalement passe en quelques jours de l'adolescence à l'âge adulte, va se confronter à cette réalité, surmonter ce défi? Elle en a toutes les capacités. En a-t-elle la volonté? C'est la question que je pose dans ce livre avec, vous avez utilisé ma formule, le devoir d'espérer.
Mais justement, je voudrais vous interroger sur ce point, Dominique Moisy, d'autant qu'on arrive à la fin de ces entretiens. Vous avez toujours oscillé, me semble-t-il, et on l'a entendu, entre une observation lucide et une foi en l'humanité qui vous vient, vous nous l'avez expliqué, du refus du pessimisme de votre père. Vous en avez sans doute hérité. Mais aujourd'hui, le constat est grave, sévère. Rien, et vous nous l'avez encore démontré, ne prêche pour de l'espoir. J'ai une question d'abord personnelle. Dans la mesure où on pourrait dire que tous les modèles, tous les piliers que vous avez connus s'effondrent, risque d'entraîner avec cet effondrement les démocraties libérales que nous avons connues. Comment vous, personnellement, vous vivez cette période ?
Bon, bien entendu, le premier chapitre de mon livre à paraître s'appelle, de manière très balzacienne, « Nos illusions perdues ». Je suis conscient que mes rêves, mes modèles se sont effondrés les uns après les autres. Et pourtant, je ne me résigne pas à leur défaite. Je garde en moi une part d'espoir qui n'est peut-être pas rationnelle, mais que je n'arrive pas à supprimer. C'est ma nature profonde. C'est peut-être le fait que dans les convois qui partaient pour Auschwitz, sur 1000 personnes, 4 allaient survivre. Et parmi ces 4, dans le convoi de mon père, il y avait mon père. Donc, peut-être est-ce une réflexion de ce type qui m'anime, une foi en l'humanité qui est incompressible. Peut-être un rapport à la transcendance et à Dieu, une croyance religieuse. Voilà, je ne cherche pas à l'expliquer, mais c'est toujours présent. C'est-à-dire que je ne me résigne pas à la défaite de mes valeurs, à la défaite de mes idées.
Vous ne vous résignez pas, mais est-ce que, objectivement, oui. Vous voyez des raisons de ne pas... Déjà oui. Désespéré oui. Et pas se résigner.
Oui, oui. Il y a deux types de raisons. Il y a des raisons scientifiques, objectives. Avec les progrès de la science, nous vivons plus longtemps en meilleure santé. L'espérance de vie est plus grande. Alors, ce qui est terrible, c'est l'explosion des inégalités qui fait que l'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres n'est vraiment pas la même. Des chiffres viennent de sortir en France pour dire que entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, il y avait une différence de 13 années d'espérance de vie. Ça, c'est pour moi un échec de nos sociétés. Ça ne devrait pas exister. Mais globalement, l'espérance de vie monte pour tout le monde. Ça n'est pas rien, surtout quand on arrive à l'âge qui est le mien, de se dire, mais au fond, c'est pas si mal. Mais il y a d'autres raisons. Il y a des raisons liées aux révolutions technologiques. On ne sait pas ce qu'il y a dans la révolution de l'intelligence artificielle. Il peut y avoir le pire, mais il peut aussi y avoir le meilleur. Et je crois profondément à la nature humaine contient le pire et le meilleur. Il s'agit de faire ressortir le meilleur et de contenir le pire. La plupart du temps, on fait l'inverse. Mais ça peut jouer dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas rationnel, mais ce n'est pas simplement une forme de volontarisme naïf. Irénique. Rappelez-vous, il y avait ce livre qui avait eu beaucoup de succès de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ». Ce que je dis aujourd'hui, c'est « Réveillez-vous, ne vous résignez pas ».
Vous parliez de transcendance possible dans ce qui vous anime. Vous ne savez pas, mais vous vous interrogez, vous doutez, Dominique Moisy. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de transmission ? Il me semble que tous vos ouvrages, et je n'ai pas vu le dernier, mais je ne doute pas qu'elle y soit encore, tous vos ouvrages sont dédiés à vos 4 petites filles. Mmh. Si je prends Le Triomphe des émotions, paru en 2024, pour que, je vous cite, Dans un monde sous l'emprise de la peur et de la colère, elle garde les lumières de l'espoir. Qu'avez-vous envie de dire et de transmettre à vos enfants, vos petits-enfants et derrière elles, aux petits-enfants d'aujourd'hui?
Ben c'est ce message, en fait. C'est l'idée plus vous vieillissez, plus vos petits-enfants grandissent. Et donc, c'est l'idée que, plutôt que de craindre votre propre décrépitude, la vieillesse, quel naufrage, comme disait le général de Gaulle, vous vous concentrez sur la progression de vos petits-enfants. Et donc, c'est ce... au fond, c'est le sens même de la vie. C'est la transmission. Je crois que on arrive à la fin de cette émission. Si je devais essayer de me définir, le mot que j'utiliserais est celui de passeur. Pas passeur de connaissances, mais passeur de valeurs. Parce que dans mon histoire personnelle, j'ai vu à quel point l'ignorance des valeurs, la lâcheté, la résignation devant le triomphe du mal conduisait à des catastrophes plus grandes encore.
Merci Dominique Moisy.
Merci à vous.
Pour ces 5 entretiens. Bon, eh bien, je crois qu'on peut vous laisser à l'écoute de ce morceau que vous aimez particulièrement, le 3e mouvement du concerto pour violon numéro 61 de Beethoven, interprété par le violoniste Hermann Krebers sous la direction de Bernard Haitink. C'était À Voix Nue avec Dominique Moisy, prise de son Clément Vuillet, réalisation Nathalie Salle, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.